Podcastobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour François Couturier.
Bonjour.
Alors vous publiez un nouvel album pour le label ECM, votre, pas votre nouvelle maison, puisqu'il y avait déjà un album sous le signe de Tarkovsky qui était sorti à l'été 2006. Là, ce nouvel album, par contre, cette fois-ci, vous êtes tout seul, enfin, seul avec votre piano, il s'intitule Un jour si blanc. Alors peut-être avant de parler de ce projet, si on parlait un peu justement du label ECM, qu'est-ce que ça représente pour vous, tant, j'allais dire, en tant qu'auditeur, mélomane, cette histoire ECM un peu unique dans le monde du disque, et après en tant qu'acteur de ce label, et peut-être nous parler un peu de votre relation de travail avec le maître des lieux, Manfred Eicher. Ouais.
Eh bien, en fait, la première occasion que j'ai eue de le rencontrer, c'était avec Anouar Brahem, avec lequel j'ai fait 3 disques chez ECM, et le premier, qui était un disque un peu particulier, parce que il réunissait en fait beaucoup de musiciens comme Galliano, Jean-Marc Larcher, celui justement qui joue avec moi, et puis des musiciens suédois. Alors c'est là que je vais avoir un trou, on va le couper. Comment il s'appelle, ceux qui jouaient avec Jarrette?
Palais Danielson.
Et donc c'était un projet où il avait, contrairement à d'autres projets qu'il avait fait, il avait réuni beaucoup de musiciens d'origines différentes, puisqu'il y a aussi un violoniste tunisien qui joue dans ce disque. Ce disque, c'était en 1995, qui s'appelle Romsa. Et c'est donc il y a une quinzaine d'années que j'ai déjà rencontré Manfred Eicher.
Quelle idée vous faisiez du... Parce que le label avait déjà une histoire à ce moment-là. Un peu de mythe ECM, une sorte de truc un peu intouchable, un peu étrange, complètement OVNI. Avant justement de la rencontre, qu'est-ce que ça représentait ECM pour vous?
Pour moi, ça représentait le label dont je rêvais. On peut ne pas... J'ai des amis intimes qui apprécient pas l'esthétique ECM. Je comprends qu'on puisse ne pas l'apprécier. Pour moi, c'était un rêve... de musicien de travailler avec ECM, et en particulier quand je me suis retrouvé il y a 15 ans donc avec Anouar dans les studios d'Oslo, qui étaient les studios mythiques où il avait enregistré la plupart des premiers disques qui sont sortis. Là, bon, c'était un rêve qui se réalise, et il se trouve que je joue très peu dans ce disque, ce qui est normal parce que bon, c'est un disque sous le nom d'Anouar, et j'aurais l'occasion par la suite de jouer beaucoup plus, puisque j'ai fait 2 autres disques avec lui où là, il n'y a que piano et accordéon. Mais bon, donc, il y a une quinzaine d'années, j'ai rencontré ce personnage mythique qui m'impressionnait. Et avec donc, j'ai eu cette première expérience. Ensuite, j'en ai fait quand même pas mal chez ECM. Quelques années après, j'ai eu l'occasion de faire un disque en duo avec Dominique Pifarelli, le violoniste, qui était une musique, alors là, complètement différente, une musique d'inspiration plutôt contemporaine, disons, très structuré, très travaillé, puisqu'on avait répété pendant un an avant, régulièrement, avant même de jouer ou d'enregistrer. Et bon, ce disque était d'une esthétique complètement différente, mais qui a qui m'a amené à fréquenter quand même de plus près Manfred Escher, puisque là, c'était plutôt quelque chose que je présentais sous mon nom avec Dominique Bifarelli.
En termes d'échange, au niveau du travail, quelles étaient un peu les spécificités par rapport aux autres producteurs, aux gens avec lesquels vous aviez travaillé jusqu'ici? Bon, au début, vous disiez c'était un peu le label, vous vénériez, etc. Bon, au bout d'un moment, il faut, j'allais dire, zapper un peu ce côté-là et se retrouver dans une relation de travail. Qu'est-ce qui vous a apporté? Comment se sont déroulés? Alors, il y a certes peut-être les travaux qui n'étaient pas sous votre nom, Brahm, puis ensuite, quand c'était avec vous en direct, comment s'est développée cette relation de travail?
Oui, je veux quand même continuer sur la chronologie, parce que après ce duo avec Dominique Bifarelli, j'ai eu l'occasion, et c'est là que j'ai été vraiment plus intime avec Manfred Escher, parce que j'ai eu l'occasion de travailler 6 ans avec Anouar Brahm sur 2 disques, Le Pas du Chat Noir et Le Voyage de Sahara, et ces disques en entraînant des tournées et des concerts, et où là j'ai fréquenté assez souvent Manfred Escher, aussi bien dans les concerts que même amicalement, après dans des repas au cours desquels on parlait de choses et d'autres, et où j'ai pu avoir le plaisir de fréquenter beaucoup ce personnage que j'admirais depuis longtemps. Ça, c'était toute la période avant ma période personnelle, disons, qui a été en 2005 avec Nostalgia. Et là, donc, il m'a proposé de faire un projet sous mon nom, ce que j'avais pas fait depuis des années, et donc un projet que j'assumais complètement. Et là, bon, j'ai eu un rapport absolument différent avec lui de ce qui s'était passé avant. C'est-à-dire que là, j'étais face à lui comme musicien devant présenter ma musique. Et là, j'ai apprécié à 100% son travail de producteur, que j'avais déjà un peu soupçonné, et plus que soupçonné avec Anouar, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en studio, sait exactement comment structurer les séances. Il sait à quel moment, il sait jusqu'où le musicien peut aller, jusqu'où les musiciens peuvent aller. Il a envie que tel ou tel morceau soit parfait ou soit à l'image de ce qu'il entendrait lui-même, et il sait à quel moment il doit arrêter le travail et reprendre le lendemain, par exemple. Et moi, je lui fais une confiance absolue à ce producteur. C'est quelqu'un en qui j'ai une confiance. Je pourrais même ne pas aller écouter les prises. Je sais qu'il sait quelle est la bonne. Et d'ailleurs, souvent, il met des petites... C'est très drôle parce que c'est presque... J'ai découvert ça après, c'est presque comme un examen, il met des petites notes. Mais c'est pour structurer le travail, justement, pour pouvoir... Quand on fait plusieurs prises d'un même morceau, il met bien ou pas bien. Et moi, je lui fais confiance absolument.
Est-ce que cette complicité, cette relation sur le temps et... Ces séances d'enregistrement particulières, etc., vous a mis votre jeu, votre approche de votre instrument dans un contexte différent. Est-ce que finalement, ce que vous avez fait pour ce label, avec ses spécificités d'enregistrement relationnel, ont eu vraiment une influence particulière sur votre approche de la musique et de votre instrument?
Je dois dire que oui, en même temps, ça vient du fait que c'est le résultat de plusieurs choses, c'est le résultat des musiciens avec qui j'ai joué aussi dans ce label. Dominique Bifarelli, qui est un musicien plutôt de style jazz contemporain, avec qui j'ai un très grand passé, puisque j'ai fait plusieurs disques, plusieurs sortes de musique, mais avec lequel je faisais une musique plutôt vraiment atonale et contemporaine. Et ensuite, cette expérience avec Anouar qui m'a complètement bouleversé esthétiquement, disons, parce que je me suis retrouvé à jouer des choses que je ne jouais pas du tout à l'époque, mais qui se sont avérés très proches de ma personnalité, c'est-à-dire des choses très simples, très basées sur le silence, très mélodiques, et je pense que la musique que je fais actuellement, c'est le résultat de ces deux expériences qui sont acoustiques et... Mais totalement différentes, quelque part.
Est-ce que vous vous sentez bien aussi, parce qu'il y a ce côté un peu no man's land, c'est-à-dire que on part de base jazz, mais aussi on tire un peu vers les musiques dites musiques du monde, on tire un peu vers les musiques dites musiques contemporaines, plus improvisées, etc. Est-ce que ce côté un peu sans frontières vraiment préétablies, qui vous ont toujours un peu marqué quand même, votre parcours musical, c'est pas une nouveauté, mais est-ce que justement il y a ce bien-être parce que vous êtes dans une période justement où ça vous permet de ne pas être dans un enclos, quoi?
Oui, absolument. Et c'est ce qui plaît à Manfred Escher, cette musique un peu particulière. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des millions de musiciens au monde qui jouent des musiques magnifiques, qui jouent, bon, qui a plein de pianistes. Bon, il y a plein de pianistes qui jouent magnifiquement bien du piano, mais bon, ce que je pense, ce qu'il a aimé chez moi, c'est ce fait que ça soit une musique assez personnelle et assez métissée, c'est-à-dire métissée dans le sens où il y a des choses mélodiques, il y a des choses contemporaines et qui sont un peu éloignées du jazz, mais qui sont tout de même du jazz parce que c'est de la musique improvisée et parce que c'est de la musique qui n'est pas de la musique classique et que dans le sens musique classique écrite et
musique classique n'est pas si éloignée aussi dans l'album Tarkovsky et des sortes de citations par rapport à des compositeurs comme Bach ou Pergolèse qui étaient vraiment donc il y a vraiment ce côté
oui mais ça c'est plutôt en rapport avec l'hommage à Tarkovsky en fait parce que j'ai utilisé des compositeurs qu'il utilisait lui-même et des pièces qu'il utilisait dans ses films donc
Alors là, donc cet album, donc différent effectivement de Tarkovsky. Donc l'album s'intitule Un jour si blanc. Alors je vais juste lire cette phrase que dans le dossier de presse, je ne sais pas si elle est dans le livret du CD parce que je n'ai pas encore vu le livret. En évoquant donc cet album Un jour si blanc, vous dites: je vois ce disque comme une promenade tranquille qui irait de l'aurore au crépuscule dans un monde idéal où les fragrances, les couleurs et les sons entreraient dans un réseau mouvant de correspondances. Il se divise en 17 pièces comme autant d'impressions intimes. La plupart improvisées, qui déclinent toute une gamme de nuances allant du calme à l'impétueux, du mélodique à l'abstraction. Alors vous allez me dire, j'ai plus rien à dire, c'est bon, j'ai répondu à la question. Mais est-ce que ce type de constat, est-ce qu'il est clair et net dans votre tête au moment d'entrer en studio, ou c'est quand même une sorte de work in progress, quelque chose qui évolue? Est-ce que vous avez des... Au départ, comment ça se passe par rapport à un projet comme ça? Vous avez des petites balises, des idées, et ça évolue pendant l'enregistrement?
Oui, c'est une question très intéressante, parce que c'est... bon. C'est le fond du problème d'un disque solo, disons, en particulier. En fait, c'était très, très clair dans mon esprit ce qui s'est passé par rapport à ce disque en particulier. C'est qu'il y a d'abord la construction du disque elle-même dans ma tête et dans mes doigts. C'est-à-dire que j'ai travaillé en composant des pièces complètement structurées, plus ou moins, certaines complètement structurées, celle qui est un hommage à Bach aussi, qui est un choral qu'on retrouve dans un film de Tarkovsky qui s'appelle Solaris. Ça, ce sont des pièces que j'avais préparées et travaillées à la maison, c'est-à-dire comme on prépare un disque habituellement. Et j'avais vraiment dans la tête ce que d'ailleurs Manfred Escher aime beaucoup, c'est-à-dire enregistrer à la fois des pièces très structurées avec des improvisations à l'intérieur, mais pas des improvisations traditionnelles avec une grille, évidemment, qu'on retrouve, mais plutôt des structures, un thème, une structure d'improvisation, un autre thème, des espèces d'évolutions comme ça. Ça, c'était tout un aspect de l'enregistrement. Et l'autre aspect, c'est j'avais vraiment envie de faire des improvisations totales, ce qui s'est passé aussi. Et donc, après cette construction et cet enregistrement de tout ce matériel, on se retrouve avec 3 heures de musique dont on exclut un certain nombre qui ne nous plaisent pas, c'est-à-dire je dis on parce que je l'ai fait personnellement de mon côté et j'ai été à Munich avec Manfred Escher, écouter pas mal de choses et on a choisi. Donc il y a le choix après en fait. Et la troisième partie, c'est le montage. Et pour Manfred Escher comme pour moi, c'est très important, c'est-à-dire que c'est comme un montage cinématographique, c'est-à-dire on raconte une histoire, mais bon, ce que j'ai mis dans la promenade du matin au soir, je ne l'avais pas du tout conçu comme ça après, c'est une restructuration de la musique que j'ai fait à un moment donné, en refaisant une histoire par rapport à ce que j'avais joué en fait. Thank you.
qu'il n'y a pas un côté mise à nu totale dans ce, avec un tel album et presque une sorte d'épreuve du feu? C'est-à-dire que dans tous les projets précédents qu'on a évoqués, que ce soit Noir Brême ou l'album Tarkovsky, il y a des éléments, des gens autour de vous, etc. Oui, oui. Quelque chose qui se fait. Là, finalement, vous êtes tout seul avec vos mains, votre piano.
Ah, oui.
Bon, il y a Manfred, en co-réalisateur, je ne sais pas comment, quel titre on pourrait lui donner, mais dans un premier temps, voilà, les pièces même structurées que vous avez composées, vous étiez seul, vous étiez, voilà. Est-ce que c'est un, par rapport à ça, c'était un exercice ou un travail vraiment unique à ce niveau-là?
En tout cas pour moi, puisque en fait c'était le premier disque solo que je faisais. J'ai fait pas mal de concerts solo depuis une quinzaine d'années, mais pas du tout avec ce matériel-là. Et en plus, les morceaux que je jouais, qui est très structuré, étaient complets. Je les avais jamais joués avant. Mmh. C'est-à-dire que c'est un matériel totalement neuf. Mais oui, c'était quelque chose de qui je suis pas d'un caractère. Je suis plutôt stressé comme j'ai le trac souvent. Bon, d'ailleurs.
Ça vous a stressé justement ce projet,
c'est-à-dire? Oui, bien sûr. En général, j'ai le trac. Donc j'étais particulièrement stressé, mais bon, il se trouve que, heureusement, avec l'expérience, j'ai le trac jusqu'au moment où je joue. Ce qui fait, voilà, là, ça s'arrête. Donc, c'était vraiment une expérience très particulière, effectivement, parce que, bon, des illustres collègues que je respecte et que j'admire, comme Keith Jarrett, font des disques solo, mais en concert, justement. Et ça, c'est quelque chose de complètement différent, parce que enregistrer un concert, c'est... on est seul sur scène, mais il y a un rapport avec le public, qu'on le veuille ou non, qu'on soit dans sa sphère, dans son monde à part, il y a le public qui est là et qui vous envoie quelque chose. Là, il se trouve effectivement que c'est un pari très, très, très risqué, parce que justement, on est seul à son piano avec, l'enregistrement qui prend à chaque chose que vous jouez. Mais je dois dire que... ça a été quand même une sorte de miracle pour moi, cet enregistrement, parce que, en particulier, j'ai fait 2 heures d'improvisation le dernier jour, et ça s'est passé vraiment d'une façon miraculeuse, c'est-à-dire que je me suis trouvé dans une bulle, dans ce studio qui est magnifique, qui est
à Lugano,
qui est un auditorium classique d'ailleurs où Martha Gerich enregistre, qui est pas, où il y a 2 magnifiques Steinway. Bon, c'est des conditions extrêmement, extrêmement luxueuses. Donc on a tout pour bien jouer. La lumière est faite de telle sorte qu'on soit dans une atmosphère intime. Et donc il y a tout pour permettre de faire de la musique sans penser à autre chose. Et ça s'est passé. Et moi je suis ravi de cette période de ces 2 heures où j'ai fait des improvisations, parce que je me sentais justement, comme je vous dis, ce qui est très rare pour un musicien, dans une bulle, dans un espace ailleurs où je jouais des choses qui me venaient, où il y avait il y avait quelqu'un qui parlait de mémoire accumulée quelque part, c'est-à-dire il se trouve que je jouais des choses que je maîtrisais, mais qui étaient des choses qui me revenaient des petites pièces comme ça, et ça j'en suis fier et content.
C'est ça l'improvisation d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui parfois va chercher, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, à tel instant.
L'improvisation en tout cas, l'improvisation solo en particulier, c'est pas quelque chose qui vient tout seul, de toute façon ça vient d'un travail énorme en amont, de tas de musique, de tas de modes de jeu qu'on travaille chez soi, de tas de pièces que, par exemple, que j'ai déchiffrées ou que j'ai jouées, de pièces classiques ou de musique de jazz que j'ai jouées, de gens avec qui j'ai joué, tout ça qui revient en un instant sur le clavier et dans la tête, qui essaye de maîtriser les doigts, et c'est quelque chose de passionnant, en tout cas.
Et donc, dans ces instants, j'imagine que vous êtes ailleurs, vous ne pensez sûrement pas au fait que vous êtes en train de faire un disque, etc.
Non,
ces interrogations, elles se font peut-être après, quand vous êtes, il fait ses croix, vous faites les vôtres,
voilà,
etc.
Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, c'est pour moi qui suis plus un improvisateur qu'un interprète, c'est plus facile de faire ça que de jouer mes pièces que j'ai écrites. J'ai ces pièces-là, on les refait plusieurs fois, on essaye de les améliorer, de les jouer le mieux possible. On sait qu'il y a Manfred Escher qui connaît tout le piano et qui vous dit à un moment donné « Oui, mais François, il faudrait peut-être jouer ce passage plus pianissimo, plus au fond du piano. » Et ça, c'est quelque chose qu'il faut assumer quand même. Mais je parle vite, peut-être. Mais il y a quelque chose qui est très important pour moi par rapport à ECM, c'est que j'appréhende, par exemple, dans le premier disque, j'étais vraiment très inquiet de rencontrer Manfred Escher et de savoir que derrière la console, il y avait ce personnage qui avait enregistré les musiciens, qui sont tous ceux que je préfère. Mais maintenant, c'est quelque chose qui me rassure plutôt, en fait. Je suis enchanté qu'il soit là et je suis ravi qu'il me donne des conseils. Et même dans un disque qu'on vient de faire, dont je vous parlerai après, il vient même dans le studio nous diriger parfois. Et moi, c'est plus du tout un stress, c'est une sécurité pour moi, parce que je sais qu'il va m'aider. Il est complètement dans la musique, c'est quelqu'un qui ne vit que pour et dans la musique. Et sa présence me rassure et m'aide à jouer, en fait.
Est-ce que, par rapport justement à l'assemblage final, vous avez parlé effectivement pour raconter une histoire. Cette histoire, donc vous aviez des heures, vous avez parlé de 3 heures de bande, etc. Est-ce que c'est une partie qui a été aisée à faire ? C'est facile de trouver tout simplement un début, un milieu, une fin, et avec évidemment des passages pour avoir une sorte de grand tout avec des différentes variations. C'est quelque chose qui est venu naturellement. Ça a été un travail de longue haleine. Comment ça s'est...
Il y avait déjà le travail de choix des pièces. J'ai retiré pas mal de pièces écrites, c'est-à-dire j'aurais pu faire un double album, que des pièces qui étaient pas mal, mais qui ne me correspondaient pas. Et ça, à ce niveau-là, j'étais vraiment décideur autant que Manfred Escher, c'est-à-dire que je suis allé à Munich écouter tout et on a décidé des pièces qu'on gardait. Ça, c'était un premier temps. La deuxième chose, c'était l'ordre. Et là, je dois dire qu'on a beaucoup de mal à résister au talent de Manfred Escher. Mais Anouar Brahem m'a dit lui-même que la plupart des ordres de disques, c'était Manfred qui le faisait en grande partie, en fait. Et là, j'ai travaillé évidemment sur l'ordre chez moi, et même avec un ami intime qui s'appelle Jean-Marc Larcher, qui était le seul à qui j'avais fait écouter les bandes. Mais je dois dire que le résultat n'est pas du tout celui que j'aurais fait. Parce que Manfred... Il a une conception beaucoup plus... Il est beaucoup plus en dehors de la musique. Et je l'assume complètement, c'est-à-dire que je pense que l'ordre qu'il a fait correspond tout à fait à ce que j'avais envie de faire. Mais c'est vrai que il est vraiment responsable d'une bonne partie du travail sur le montage lui-même, en fait. C'est un disque qui est très monté, en fait, c'est-à-dire que, bon, par rapport à 3 heures de musique, mais il n'y a pas de montage dans les il n'y a absolument aucun montage dans les pièces elles-mêmes, en fait. D'accord. C'est-à-dire que il n'y a absolument aucun record, il n'y a même pas de coupure. Ça, j'y tiens parce que c'est quelque chose que c'était comme dans Nostalgia, pareil, le premier Nostalgia, c'est des musiques qui ont été choisies, bon, il y a des prises qui sont choisies, mais Manfred Escher aime bien ça aussi, et moi je trouve que c'est quelque chose dont je suis fier aussi, que je revendique, c'est que c'est des prises, c'est des premières prises, en fait. C'est-à-dire qu'on ne met pas un thème qui a été pris là, un thème, mais en particulier les improvisations ne sont pas du tout collées, en fait. Et ça, bon, je pense que ça peut se ressentir à l'écoute, qu'il y a un jet général que l'on ressent, en fait.
Entendre votre piano seul comme ça, c'est en termes de sonorité, c'est quelque chose que vous êtes vraiment appliqué, vous étiez assez perfectionniste par rapport au son obtenu, même si vous saviez, il y avait ce côté un peu Rolls qui vous convenait, du son ECM, etc. Donc je pense qu'il n'y avait pas trop de mauvaises surprises, mais est-ce que vous avez vraiment, ça vous a permis de découvrir une sonorité, quelque chose de particulier, une approche de votre musique via le son différente par rapport à vos travaux passés?
Je dois dire que depuis que je travaille avec ECM, j'ai très sincèrement, j'ai pas de problème à m'écouter, à écouter le disque après, le CD.
C'est les seuls albums de vous que vous réécoutez?
Non, il y a des CD que j'aime bien, mais j'ai beaucoup de mal à écouter le piano surtout. Et je les écoute jamais d'ailleurs, les disques. Mmh. Et depuis Le Pas du Chat Noir, depuis le disque avec Dominique Pifarelli, mais Le Pas du Chat Noir, la musique d'Anouar Braille, je trouve tellement le son de piano magnifique, ça me correspond tellement, je ressens que c'est mon son de piano, que j'ai pas de mal du tout à m'écouter. Ça paraît un peu orgueilleux de dire ça, mais je suis pas quelqu'un de très...
C'est bon de vous, ça.
Non, mais c'est vrai que... Bon, il y a déjà une chose dont je peux parler, c'est que j'arrive justement au studio, je joue une note, et la note que je vais jouer, c'est celle qui aura quasiment sur le disque. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de mixage du piano. Il y a une telle connaissance de l'endroit, de l'instrument et de relation entre le preneur de son et Manfred, que j'arrive au studio de Lugano, je me mets au piano, je travaille un petit peu seul, bon, et après je joue, et tout de suite le son que j'ai écouté dans la cabine, c'est le son qui sera sur le CD en fait. Et ça c'est un plus, parce qu'on n'a pas à se dire, à extrapoler, à se dire tiens comment ça va sonner. Et bon, c'est effectivement un son que j'adore, c'est le son que j'aime de piano, et je me reconnais. Et je pense que si j'ai une qualité, c'est une qualité, bon, chaque pianiste a ses qualités, la qualité que je me reconnais, qu'il aime chez moi, Manfred, c'est le toucher, certainement, un toucher qui lui correspond, un toucher un peu, surtout pianissimo, et bon, mais bon, c'est...
Mais est-ce que, pour vous, d'une certaine manière... Le fait que cet album solo soit arrivé à ce moment-là, dans votre histoire avec ECM, c'était important justement que ça arrive à ce moment-là, après toutes ces collaborations avec Anouar Brahim, ensuite avec vous, plutôt qu'au début. C'est-à-dire que c'est vraiment le fruit de toutes ces années passées, de sûrement la façon dont vous avez pu travailler avec lui, la façon dont Manfred Eicher également a échangé avec vous, etc. Est-ce que c'était bien que ça se passe après?
Oui, je pense que j'aurais pas pu le faire avant. Non, je pense que bon, c'est exactement ce que vous avez dit, c'était arrivé au bon moment. Le premier disque que j'ai fait sous mon nom, chez ECM, sous mon nom, en dehors du duo, c'était Nostalgia, et c'était avec, bon, je vais quand même les citer, avec Anja Lechner au violoncelle, Jean-Louis Matigny à l'accordéon, qui est aussi avec Anouar Brahim dans le trio, et Jean-Marc Lachet au saxophone. Et ça, bon, c'était un hommage à Tarkovsky. Et lorsque j'ai fini cet hommage, j'ai discuté avec Manfred de ce qu'on pourrait faire après. Et on a élaboré en fait une espèce de trilogie, c'est ce qui est marqué aussi dans le livret, qui sera une trilogie, pardon, en hommage toujours à Tarkovsky, même si c'est moins présent dans le solo, qui sera le Nostalgia en quartet, au milieu le solo, et après un deuxième opus de Nostalgia du quartet, qu'on vient d'enregistrer d'ailleurs au mois de décembre dernier, au même endroit.
Avec les mêmes musiciens.
Voilà, avec les mêmes musiciens. Ce qui fera une trilogie autour de l'hommage à Tarkovsky, en fait.
Est-ce que ça veut dire que donc sur cet album, Un jour si blanc, la personnalité, ou plutôt les films, l'œuvre de Tarkovsky était quand même aussi présente en vous?
C'est-à-dire, au tout début, je voulais le consacrer entièrement encore à Tarkovsky. Puis petit à petit, je me suis dit que c'était quand même quelque chose qui pourrait peut-être me brider par rapport à certaines musiques que j'avais envie de faire. Mais déjà, Un jour si blanc, c'est un rapport totalement avec Tarkovsky, puisque c'est le titre d'un poème du père du cinéaste, qui s'appelle Arseni Tarkovsky, qui est, bon, pour les spécialistes de cinéma, bon, ça c'est un truc un peu particulier, mais c'était le premier titre qu'il avait donné à un de ses films qui s'appelle Le Miroir, qui est un film très autobiographique, et il l'avait appelé Un jour si blanc, et j'ai pris ce titre qui me plaisait beaucoup. Et le poème est dans le livret en russe, en anglais et en français. Et il est traduit en anglais par le fils. Bon, c'est toute la génération Tarkovsky qui est dans ce disque. Il y a le père qui est le poète, le cinéaste qui est mon cinéaste préféré, qui est un de mes artistes préférés, toutes catégories confondues, et le fils qui est quelqu'un que j'ai rencontré à Florence l'année dernière et qui est quelqu'un de charmant et avec qui est devenu un ami. Et à ce propos, je voudrais dire qu'on a fait un projet qui est passionnant, qui est le quartet Nostalgia et un projet d'audio-vidéo. Et lui, il passe un film qu'on a pas, c'est pas un film d'ailleurs, c'est des images qu'on a travaillées ensemble en fait. Et il improvise avec nous, il passe des images d'archives ou des images d'extraits de
Quelque
films.
chose qui a été fait déjà,
Voilà.
qui va être fait.
Non, qui a été fait déjà, qui a été fait malheureusement assez peu, mais que j'espère développer, et qu'on a fait avec l'aide de trois scènes nationales à Montbéliard, Strasbourg et Nevers l'année dernière, et puis aussi à Cergy-Pontoise, mais donc qu'on va développer aussi. Mais donc, pour revenir à ce. J'ai un peu tout mélangé pour revenir à ce solo. Donc Tarkovski est très présent quand même par l'intermédiaire des trois générations, puisqu'il y a le père qui est le poète, le fils qui est le cinéaste génial et le petit-fils qui est un ami et qui a traduit.
Et ce Nostalgia 2, on va dire, que vous avez enregistré en décembre, comment s'est déroulé l'approche, la préparation par rapport au Nostalgia 1, si on peut les appeler comme ça.
C'est encore quelque chose de particulier. C'est là la difficulté, c'est qu'on n'avait jamais joué de ce répertoire aussi sur scène en fait. Donc on l'a répété quelques jours, dans les mois précédents, et on est arrivé en studio, mais je ne savais pas du tout comment ça sonnerait vraiment. Et donc, il y a eu des morceaux qui sont plus ou moins bien passés, d'autres qu'on retirera comme ça se fait habituellement. La différence avec le premier, c'est que en fait, j'ai conçu quand même une musique beaucoup plus orchestrale. Dans le premier, il y avait beaucoup de duos, de trios, de choses comme ça. Là, c'est beaucoup plus un son d'orchestre avec des. On joue tous les quatre beaucoup plus ensemble, en fait. Mais là, c'est vraiment la fin de mon cycle Tarkovski, mais c'est vraiment complètement dédié à Tarkovski, avec encore un peu comme le premier, des extraits de musique de Bach, de Pergolèse. Là, j'ai pris des extraits d'un musicien russe qui s'appelle Shostakovich. Mais bon, c'est je pense que c'est très différent du premier.
Est-ce que d'avoir comme ça une sorte de figure un peu tutélaire un cinéaste, Tarkovski, est-ce que ça veut dire que vous visualisez en permanence votre musique? Est-ce que les images, que ce soit celles de cinéma ou autres, c'est quelque chose qui est en permanence en vous par rapport à votre écriture musicale, par rapport à vos improvisations?
Non, absolument pas en fait. Non, c'est plutôt quelque chose qui est dans ma tête au moment où je compose les choses, enfin composer avec un petit C, parce que je suis plus, comme je vous dis, je me sens plus improvisateur que compositeur ou interprète. Mais c'est plutôt une impression générale bon, quelque chose qui est très présent chez Tarkovski que je ressentrais énormément, c'est le silence qui est un peu la marque de fabrique de ECM aussi, et la différence entre la différence en fait, entre l'opposition entre quelque chose de calme et de très violent en fait. Et bon, il y a quelques morceaux en particulier dans le solo, il y en a un que j'ai appelé Clair-Obscur. Qui sont deux improvisations, l'une très mélodique, un petit peu proche de Keith Jarrett, bon, presque une chanson, et l'autre qui reprend le même thème, mais complètement déstructuré, complètement d'une façon beaucoup plus contemporaine, disons. Et ça, c'est un peu ce qui me plaît en musique, l'opposition entre des choses, actuellement en tout cas, des choses très simples, très mélodiques, et des choses très, très déstructurées. Et ce rapport entre le silence et le calme et la violence, on le retrouve beaucoup chez Tarkovski aussi.
On a parlé tout à l'heure un peu de ce côté un peu no man's land, pouvant aller vers la musique du monde ou vers la musique classique ou musique contemporaine. On a toujours un peu tendance à estampiller, étiqueter le jazz dit européen par ses influences. Est-ce que ça a une signification, même si l'éternel cliché de la musique n'a pas de frontières, est un langage universel, blablabla. Est-ce que jazz européen, ça a une signification pour vous? C'est juste une sorte d'invention marketing Et vous, à la rigueur, même quand vous rencontrez quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui vous demande ce que vous faites, comme vous êtes musicien, vous définissez comment, d'une certaine manière?
C'est une très très bonne question et qui est malheureusement très,
sans
très,
réponse.
Très, très, qui est malheureusement sans réponse et difficile. Et c'est vrai que bon, c'est vrai que c'est difficile à étiqueter la musique que je fais. C'est vraiment bon. Pour certains, ce sera pas du jazz du tout. Pour d'autres, ce sera pas de la musique classique. Ce qui est vrai d'ailleurs, puisque c'est ni l'un ni l'autre. Il y avait Francis Marmande, le journaliste, qui avait écrit, pas du tout à propos de moi, mais à propos de Sofia Domancic, qui est une pianiste qui fait des choses qui pourraient être comparables. C'est de la musique qui peut ne pas apparaître comme, enfin quelque chose, ça, il a dit à peu près ça, c'est de la musique qui peut ne pas apparaître comme du jazz, mais qui ne pourrait être jouée que par des musiciens de jazz, en fait. Voilà. Et je trouve que
Ça vous
c'est
convient,
très,
quoi.
ça me convient parfaitement. C'est vrai que bon, pour une personne qui attend du jazz, une musique rythmée, avec de la batterie, avec quelque chose swingant, s'en est assez éloigné. Mais bon, le jazz, c'est pas que ça non plus. Il y a des tas de magnifiques musiciens qui ont joué des disques entièrement de ballades et qui sont quand même d'un feeling qui n'est pas de la musique classique, en fait.
Le jazz, il évolue comment en vous, le jazz pur, j'allais dire, dans vos, en tant que mélomane, en tant qu'auditeur simplement, et en tant que musicien. C'est quelque chose qui est en vous, qui s'en va, qui reste. Est-ce que c'est une musique morte, une musique de répertoire? Est-ce que comment, est-ce que c'est des questions auxquelles vous, des réflexions que vous faites? Comment
Oui, bien
ça?
sûr, c'est des réflexions. Bon, si actuellement, dans ma vie de musicien actuel, il y a quand même mes projets complètement personnels qui sont Nostalgia, qui sont ceux avec ECM, disons, qui sont la musique qui me convient à 100% et où je me reconnais, ce qui est rare parce que j'ai été long à m'y mettre, mais je me reconnais totalement esthétiquement et pianistiquement. Et à côté de ça, il y a des choses que j'aime faire et que je revendique totalement aussi, c'est-à-dire par exemple un trio que j'ai fait avec Daniel Humer et Jean-Paul Séléa, qui est sorti chez Abeille Musique, Triptyque, avec lequel qui est une musique assez différente.
Vous avez vu sur scène d'ailleurs au Châtelet
Oui,
pour le jubilé
voilà.
Daniel Humer.
Et là, bon, c'est quand même assez éloigné de ce que je fais. Bon, je ne voudrais pas paraître être un musicien caméléon, mais ça,
Et vous êtes vous-même quand même,
je
malgré tout,
suis
dans
moi-même
ce trio.
aussi,
Vous n'êtes pas
voilà.
juste un acteur.
Exactement. Il y a un disque qui va sortir prochainement chez Zigzag aussi, ça je vais en parler quand même, qui est un projet assez ancien, qui est aussi autour d'un musicien classique, mais ça c'est un musicien espagnol qui s'appelle Federico Mompou. Et bon, c'est avec François Lezo et François Méchali, qui sont deux vieux amis. Et là, bon, c'est piano, basse, batterie. Et bon, c'est pas un projet qui est sous mon nom, mais c'est un projet que je fais qui est beaucoup, qui a, même s'il y a un certain rapport mélodique avec ce que je fais sous mon nom, est quand même assez éloigné, puisque là, on peut plus le rapprocher à du jazz, puisque c'est quand même quelque chose où il y a une batterie, une basse. Donc ça c'est une partie de mon travail. Et l'autre partie est ce que. Bon, quant à ce que j'aime, bon, j'aime le jazz, bien sûr, j'aime Coltrane, j'aime particulièrement dans ce qui se fait aujourd'hui, c'est facile à dire, mais mon pianiste de référence, c'est Keith Jarrett, pour qui j'ai une admiration sans borne, pour qui.
Alors justement, par rapport, si on prend cet exemple de Jarrett, si on parle de vos côtés un peu sans être caméléon, d'avoir des mondes un peu différents, on prend quelqu'un comme Jarrett qui lui finalement il est un peu sur deux pieds, il a son trio, il a
Oui.
plus de 20 ans maintenant, et en solo. Et finalement, est-ce que ce travail comme ça de garder les mêmes musiciens, parfois même de garder un répertoire identique, de le creuser en permanence, côté comme un peu comme un écrivain qui écrirait tout le temps le même livre,
Oui.
ou un cinéaste qui filmerait tout le temps le même film, comment vous regardez justement ça? C'est une fascination? C'est au-delà après peut-être d'aimer l'esthétique même de Jarrett?
J'arrête. Déjà, ce qui m'impressionne chez lui, c'est ce côté universalité de la musique, justement. C'est-à-dire que si on écoute ses disques en solo, ça peut être de la musique contemporaine, et ça peut être. C'est très proche du jazz aussi, dans un certain aspect. Ce côté pianiste total, c'est quelque chose que je retrouve chez personne d'autre, en
Et il a
fait.
créé un style presque à lui seul,
Voilà,
c'est presque.
exactement. Et le fait qu'en. Et la chose qui m'impressionne en dehors de la musique, c'est que. Il a une force et une carrière tellement forte qu'il arrive à faire écouter ça à des gens qui n'écouteraient pas ça si c'était quelqu'un d'autre, en fait. Et à faire aimer ça à des gens. Parce qu'en fait, bon, c'est un pianiste qui amène, qui a une unanimité chez le public et qui remplit les salles et qui fait écouter des choses que les gens n'écouteraient certainement pas si c'était pas lui, en fait. Et le fait qu'il ait toujours le même trio, c'est quelque chose aussi que j'admire, parce que c'est quelque chose qui est très difficile à assumer pour quelqu'un qui n'est pas une grande star. Pareil, moi, par exemple, qui ai vraiment envie de travailler toujours avec les mêmes gens, c'est que c'est un truc que j'aime à travailler. Je trouve qu'on s'enrichit mutuellement, amicalement, c'est quelque chose de fort. Musicalement, plus on joue avec les gens, plus on progresse. Mais c'est quelque chose qui est très difficile en Europe à assumer. Parce que les organisateurs ont vite fait de vous dire « Ah oui, encore les mêmes musiciens
ouais, ». Enfin, eux, ils ont presque même créé un concept, hein, un truc à part. Quoi. Ben c'est vraiment le trio,
voilà,
comme une unité, enfin une entité presque. Donc, je pense qu'ils sont, à titre personnel ou même pour le public, je pense qu'à ce niveau-là, c'est assez unique en plus, surtout. Quoi. Ouais. C'est quelque chose de...
Mais moi, ce que j'espérais, à mon petit niveau, humblement, c'est que le public qui écoute les Jarrettes et qui écoute cette musique et qui est assez... qui n'est pas définissable non plus souvent, parce que prennent l'effort d'écouter ce que je veux, qui est assez proche en fait quelque part, puisque c'est pas pour les puristes du jazz, c'est pas du jazz, mais qu'en fait c'est je pense que c'est audible par la plupart des gens qui aiment la musique en fait. Bon.
Comment on gère justement ces influences, les gens qu'on sent comme des influences, ceux qu'on sent comme des cousins éloignés, etc. Il y a plusieurs parties. Je pense qu'il y a au début, quand on fait une formation musicale, on essaye de se détacher et d'être soi-même. On lutte, parfois on ne lutte pas. Et après, il y a comment ces influences évoluent tout au long d'une carrière, comment elles s'éloignent, comment elles reviennent, comment d'autres qu'on croyait justement être pas du tout importants finalement le redeviennent, etc. Comment vous avez évolué avec tous vos confrères ou d'autres, enfin même des compositeurs, pas uniquement des interprètes d'ailleurs.
Moi je pense que parmi mes qualités, c'est que c'est de pas avoir eu tellement d'influence en fait. Peut-être parce que j'écoute pas tellement de musique, j'ai jamais écouté énormément de musique.
Pas un glouton de musique.
Non, et j'ai jamais... Bon, j'adore, j'écoutais beaucoup de musique classique. Quand je joue du piano, je déchiffre parce que je revendique pas du tout le fait de jouer du piano classique, mais je joue plutôt de la musique classique pour travailler la technique. Et je pense que quand je suis arrivé sur la scène du jazz il y a une trentaine d'années avec Jean-Paul Celia, on a eu tout de suite beaucoup de succès. C'était plus facile à l'époque, d'ailleurs, beaucoup plus, parce qu'il y avait beaucoup moins de musiciens et beaucoup moins de musiciens talentueux. Mais on avait quelque chose de particulier dès le départ qui était quelque chose qui ne sonnait pas comme les autres. Bon, c'est-à-dire qu'on ne jouait pas... À l'époque, il y avait beaucoup de musiciens qui jouaient du jazz moderne sur les grilles. Et bien que je connaisse les grilles et bien que j'aime bien jouer ça, j'ai toujours défendu une musique un peu personnelle. Et je pense que... est arrivé là, juste avec ses 10 Nostalgia et le solo, à quelque chose qui ressemble pas à d'autres musiciens. Ça, j'en suis fier, parce que je pense que on peut pas comparer cette musique là à d'autres pianistes. Et donc c'est pas quelque chose qui est difficile pour moi, parce que j'ai toujours envie de jouer cette musique là en fait, qui est sans vraiment d'influence, les influences étant de jazz étant plutôt justement Paul Blais, au début Thelonious Monk, Martial Solal à un moment donné, maintenant et toujours j'arrête, mais je retrouve pas que, je pense qu'on retrouve pas trop de tout ça dans la musique que je fais pour le moment, et ça, bon, c'est, je trouve que c'est une qualité, parce que je pense qu'il y a actuellement énormément de musiciens talentueux, de plus en plus de pianistes qui savent tout jouer, qui jouent bien, mais bon, qui jouent peut-être beaucoup de la même chose, certes. En tout cas, c'est pas... Bon, encore une fois, ça paraît prétentieux de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pianistes qui sont... On peut pas les reconnaître tellement, en fait. Bien qu'ils jouent 100 fois mieux du piano qu'avant, ils jouent tous mieux les uns que les autres, en fait.
Quel regard vous portez là, justement, vous portez un peu un regard sur la musique actuelle, sur les musiciens actuels, sur les auditeurs, sur le public, sur la façon dont les gens dégustent la musique, consomment la musique, comme on dit même maintenant, pour utiliser un mot assez horrible, par rapport à tout ce qui se passe, que ce soit, si on prend un peu le sort de grand débat dans lequel on mettrait la crise du disque, oui, le téléchargement, ce que vous dites notamment sur, effectivement, ou peut-être qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 40 ans, il y a des gens qui, techniquement, des musiciens qui sont, il y en a incroyablement, une quantité, oui, incroyable, et finalement, est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose? Est-ce que vous avez un jugement, critique ou non, sur cette sorte de planète musique, où vous êtes acteur et vous évoluez dedans sans trop regarder ça, sans trop ça vous soucie?
Mais moi, je me sens un peu atypique, disons, parce que c'est vrai que je fréquente un certain nombre de musiciens, mais qui est un petit microcosme, en fait. Peut-être, d'ailleurs, j'ai envie de changer dans les années prochaines, de jouer avec des jeunes musiciens et de changer un peu, de sortir, écouter.
Ce que fait Humer, par exemple.
Non, mais c'est un peu la mode que les musiciens plus âgés jouent avec des jeunes, mais...
Non, mais si on prend son expérience, voilà, pour citer cet exemple, c'est intéressant.
Je trouve que le cas de Daniel Humer est magnifique, parce qu'il est toujours, toujours à la recherche. Et je pense qu'à chaque fois, comme il joue avec des musiciens merveilleux, ça lui amène quelque chose. Et bon, c'est quelqu'un qui est complètement ouvert à toutes les musiques. Il joue par exemple avec moi, qui ne suis pas du tout... Il pourrait jouer avec des centaines de musiciens qui jouent mieux du piano jazz que moi. Il joue avec moi parce qu'il sait qu'il y a quelque chose d'autre. Et donc, il est toujours ouvert. Moi, je suis plus vieux, mais les jeunes musiciens avec qui il joue lui amènent quelque chose. Et c'est quelqu'un qui est en quête de nouveauté, justement. Par rapport au public, c'est vrai que c'est une question... Il y a plusieurs aspects de la chose. Quand on parlait du montage d'un disque, par exemple, il est vrai que Manfred Escher a une idée du CD qui me convient parfaitement, mais qui est quelque chose d'un peu peut-être utopique actuellement, qui est un peu réservé à quelques personnes. C'est-à-dire, il pense le disque comme un objet, c'est-à-dire la personne s'assoit dans son salon ou sur sa chaise et puis écoute le disque d'un bout à l'autre. Sans rien faire d'autre.
En regardant le packaging, voilà. Et la belle pochette, en ouvrant le...
Voilà. Et ça, donc, c'est en cela que le montage est important. Il y a un début, il y a une fin. Et ça, bon, c'est peut-être quelque chose d'un peu utopique qu'on retrouve plus tellement. Mais bon, que moi, j'espère que certaines personnes font encore, parce que c'est comme lire un livre, je veux dire. Il n'y a rien de mieux que d'écouter un disque d'un bout à l'autre. Mais cela dit, je veux dire l'inverse, on peut, dans les musiques qu'on fait, dans mon solo, dans les musiques CM, on peut y prendre un disque, un morceau particulier, et l'écouter, il en aura autant de valeur, ça c'est bon. Je dis l'inverse, c'est le... Mais je pense qu'il ne faut pas que les gens soient rebutés non plus par une certaine musique, et que, en France en particulier, cette musique-là n'est pas si facile que ça à faire passer, en particulier sur les radios, qui sont un peu effrayés par une musique un peu acoustique. Et moi, je pense que la musique que je fais peut être écoutée par n'importe qui, et je fais écouter ça
Ce que vous disiez tout à l'heure sur l'aspect de Jarrett, qui va remplir des salles de concert complètes avec des prix de billets vendus à des sommes assez élevées. Ouais.
Et je pense que la musique que je fais pourrait être écoutée par des gens qui connaissent ni le jazz, qui connaissent le jazz, qui aiment la musique actuelle et tout ça. Parce qu'il y a un côté mélodique et un côté simple aussi dans certaines pièces qui peut être très 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 commercial, alors que ça paraît pas du tout commercial. J'essaye de le défendre, parce que c'est vrai que bon, les gens peuvent avoir peur de cette musique-là quelque part, mais moi je pense qu'il n'y a pas... qu'une fois qu'on a écouté ça, ça pourrait passer sur n'importe quel... Certains morceaux, d'autres plus déstructurés, disons, sont... sont peut-être à réserver aux gens qui aiment ça, mais il y a au moins la moitié du CD que j'ai fait qui pourrait passer sur n'importe quelle radio. Or, ça semble difficile.
Vous nous avez parlé de certains de vos projets. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous avez des envies dans les mois à venir? Tant au disque que sur scène, d'ailleurs.
Sur scène, là j'ai quand même un programme assez chargé de CD qui vont sortir, puisque j'ai le solo qui va sortir le 1er février. Après, j'ai ce disque, chez ECM en tout cas, de Nostalgia 2 qui va sortir, je ne sais pas, dans un an. Et dans quelques mois, il va sortir chez Zigzag le disque sur Federico Monpou. Je pense dans 5-6 mois. Donc je pense travailler sur scène avec ces trois projets. Mais c'est vrai aussi que le premier Nostalgia, on n'en a pas tellement entendu parler en France, et j'ai eu pas mal de difficultés à le faire tourner en France à cause du type de musique. Alors que, bon, les gens le savent pas, mais c'est quelque chose qui a très bien marché à l'étranger, grâce à ECM en particulier. Bon, c'est peut-être aussi le fait que ECM et une marque allemande, mais on a fait quand même beaucoup de concerts très prestigieux dans des endroits, bon, je dis au hasard, le festival de Lucerne, qui est un festival classique, le festival de Claudio Abbado, dans des salles prestigieuses. On a joué à l'Opéra de Cologne, dans une très belle salle de Munich. On a joué en Hollande, dans de belles salles. On a joué en Europe, vraiment... Dans de très 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 belles salles, dans de très bonnes conditions. Or, on a eu quelques organisateurs français que je voudrais saluer, mais c'est pas le pays où on a le plus joué. Et bon, je trouve ça dommage, parce que les gens ne connaissent pas bien cette musique-là, et en fait, comme je vous l'ai dit, je pense que ça pourrait plaire au plus grand nombre.
Donc on va rappeler le nom de cette musique-là. Voilà. L'album s'appelle Un jour si blanc, et donc il sort sur le label ECM. Merci François Couturier.
Cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.